Studio mobile de Timbre FM.
C'est le créneau dédié aux rediffusions,
de couverture d'événements,
festivals, marchés d'artisanat,
forums, etc.
Mené par Timbre FM
avec ses équipes timbrées
et son studio mobile.
Et la plupart du temps,
ça se fait en direct et en public.
Le studio mobile de Timbre FM, ça la bouge.
Un ours blanc fait la sieste sur un tapis de mousse. L'ours blanc, symbole s'il en est besoin des changements climatiques en cours. Non, ce n'est pas un changement de mode de vie, mais la photographie d'un ours qu'on connaît peu, et dont est venu nous parler Jean-Marie Sévenot, qui, à travers ses photographies, nous montre que la nature est magnifique quand on la laisse s'épanouir. C'est Julie qui m'accompagne dans cette nouvelle rencontre. Bonjour Jean-Marie Sévenot.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, ton travail de photographe est assez orienté sur une partie du monde, en tout cas celui que tu nous présentes aujourd'hui au Festival Arrêt Nature de Paimpont. Pourquoi cette partie du monde en particulier? Et le rapport peut-être à l'ours blanc dont je parlais juste avant?
Principalement par envie. C'est-à-dire que, quel que soit le séjour que j'effectue, je le fais toujours par passion, pour des espèces qui m'attirent, qui me font rêver depuis très longtemps. J'ai vu un reportage ou je ne sais quoi, et puis je me dis, tiens, ça j'aimerais bien voir en vrai, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que de plus en plus, presque tout le temps, ça a toujours été le Grand Nord, même si dernièrement aussi j'ai fait des excursions dans le Grand Sud, mais beaucoup dans le Grand Nord. Donc là, c'est une expo qui est liée à un ours Kermode, et qui se trouve en fait en Colombie-Britannique, donc un territoire du Canada. En gros, pour situer, c'est côté Pacifique, au-dessus de Vancouver, dans la forêt pluviale du Grand Ours, une forêt très, très dense et où subsistent quelques ours Kermode.
D'accord. Et qu'est-ce qui fait vraiment la particularité de cette forêt?
La particularité, c'est que c'est très humide déjà, donc impénétrable. Le fait que ce soit humide, donc beaucoup de végétation. Et impénétrable parce que c'est quand même des conditions assez difficiles pour y vivre. Donc il y a quelques peuplades de natifs, donc des Indiens d'Amérique, des vrais de vrais.
Okay.
Et puis pas mal d'animaux, principalement côtiers. Donc on va avoir des ours, on va avoir des loups. Donc les ours, ça va être des ours bruns, ce qu'on appelle communément le grizzly. Et puis l'ours noir. Donc l'ours noir, c'est un animal qui est présent en Amérique du Nord, que ce soit Canada ou aux États-Unis, à hauteur de 50 000 individus. Et petite particularité, donc il y a quelques individus qui sont blancs, et donc qui est cet ours Kermode. Donc pourquoi ours Kermode? Parce que c'est Francis Kermode, un scientifique qui l'a étudié en premier, dans les années 1800, et puis qui a donné son nom en fait à cet ours. C'est pas un albinos, c'est pas une espèce différente, c'est bien un ours noir avec un pelage blanc. Il est porteur d'un gène récessif en fait.
Ok, et donc du coup je disais que ce gène récessif, il peut se transmettre. Deux ours donc noirs peuvent faire un ours blanc. C'est vraiment pas un truc, c'est pas deux ours blancs qui donnent un ours blanc quoi, c'est vraiment
non.
Un gène récessif.
Ouais, il faut que ce soit que les deux adultes soient porteurs du gène. Donc ça peut être deux ours noirs qui sont porteurs du gène blanc de par leurs antécédents et qui peuvent donner un blanc.
D'accord.
Ou un blanc et un noir, ou deux noirs, ou généralement c'est la couleur noire qui domine, mais quelquefois il y a un blanc. Ouais. Donc ça saute plusieurs générations.
C'est la loi de Mendel des petits pois appliquée aux ours.
Exactement.
Et cet animal, est-ce qu'il a un comportement particulier par rapport à l'ours noir, ou il est vraiment dans la même sphère, la même strate alimentaire, les
Pareil.
Mêmes comportements sociaux?
Exactement la même chose. Donc ils se reproduisent entre eux, ils vont se retrouver aux mêmes endroits lors de la remontée des saumons, donc sur les rivières. Donc ils vont partager l'espace. Et après, qu'est-ce qui fait que c'est plutôt un blanc ou plutôt un noir qui domine? C'est simplement le fait que ce soit le... Généralement, c'est un gros mâle qui domine la place. Et là, quand j'y suis allé, c'était un gros noir. Il y avait plusieurs autres ours noirs donc autour. Et il y avait cette femelle qui pêchait malgré tout, juste à proximité, quoi.
Et du coup, quand vous partez comme ça pour prendre vos photos, quelle est votre façon de faire, quoi, d'approcher l'animal?
Alors là, c'était pas très compliqué. En fait, donc ça se situe sur une île. Il n'y a pas beaucoup de spots comme ça où il y a de l'ours Kermode. Celle-là est connue pour être ce qu'on appelle l'île mère, en fait. Là, il semblerait que ce soit sur cette île-là que les premiers ours Hermode soient apparus. Donc moi, je me suis renseigné. Généralement, quand je prépare un séjour, c'est pendant un an et demi, deux ans, pour trouver les bons endroits, les bonnes périodes, éventuellement un guide qui peut me conseiller, un local. Et après, en termes d'approche, donc on accoste sur l'île, forcément, en bateau. Une petite marche de 20 minutes. Et puis ensuite, on reste à proximité de la rivière, puisque moi, j'y suis allé en septembre, lorsque ça a remonté des saumons. Et puis, il faut rester attendre. Donc un bon indice de présence, c'est déjà de voir s'il y a beaucoup de carcasses à proximité, puisque l'ours, quand il pêche, donc il attrape son poisson, mais il ne va pas le manger sur place, il va dans la végétation.
Il l'emmène.
Toujours. C'est ce qui permet aussi à la végétation de bien proliférer. Et donc, voir cet indice, déjà, c'est bon signe. Et puis, en fait, dès que je me suis installé à proximité d'une cascade, je crois que j'ai attendu, peut-être une minute, et j'ai un gros mâle qui est arrivé. Et ensuite, un petit peu après, le Carmode.
D'accord.
Ce qui n'est pas toujours gagné parce que, par exemple, l'année suivante de mon séjour, un ami est allé et lui a vu un Carmode pendant 5 minutes en 3 semaines. Alors pourquoi ? Simplement parce que les remontées de saumon ne sont pas régulières, c'est pas tous les ans à la même date. Et puis parce qu'il y avait beaucoup plus d'eau, il a beaucoup plus plu à cette année suivante. Et donc le niveau d'eau étant plus haut, les ours ont plus de mal à attraper des poissons. Voilà, donc c'est un concours de circonstances.
Et ton travail sur les ours dont tu nous parles là, est une partie de tes activités, puisqu'en tant que photographe animalier, tu profites aussi, j'imagine, de ta présence dans ces endroits particuliers pour nous présenter les photos qu'on peut voir ici. On va y voir ce que je dirais moi être une chouette.
Ouais, alors en fait, bon, là sur
plus
le.
D'autres animaux typiques de ces espaces.
Effectivement, sur l'expo, là, on voit différentes choses. Donc, il y a l'expo en elle-même qui présente le biotope du Carmode. Donc, on voit des ours noirs, on voit l'ours Carmode, donc on voit des baleines aussi, puisque comme je disais, je suis sur une île. Et en fait, aux alentours, dans les fjords, il y a beaucoup de baleines à bosse. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit beaucoup d'oiseaux aussi. Et puis en parallèle, c'est mon activité, c'est de la photo animalière, donc je présente d'autres choses provenant d'autres destinations. Donc effectivement, là il y a des photos de chouettes, il y a des photos d'ours polaires, il y a des photos de pumas, il y a des photos de
renards,
de loups, des choses comme ça, ouais. Parce que qui viennent soit d'Arctique, enfin des photos que j'ai réalisées en Arctique, ou alors au Chili, ou dernièrement c'est en Himalaya, voilà. Je parcours les espaces, enfin des contrées un peu isolées, bien sauvages, il n'y a pas grand monde, et ça me va bien.
Et on peut voir dans votre travail, en fait, sur les photos, on s'attend toujours à voir un animal, l'animal en entier et tout, et on remarque que des fois on a juste une patte, un bout de museau sur une roche, on devine un moment de vie, vous arrivez à saisir ces petits instants, c'est une volonté de votre part
Ouais, c'est que... Moi, je cherche pas à faire de la photo d'identification. Moi, mon but, c'est pas de faire de la photo pour faire des encyclopédies. Comme je disais, en fait, bon, c'est mon métier, mais malgré tout, je fais des photos qui me plaisent. Et moi, ce qui me plaît, c'est pas forcément montrer un animal potentiellement dangereux, comme ceux qu'on vient de citer, avec du sang et compagnie, où on les voit en train de... avec vraiment de l'exubérance, de la puissance. J'aime plutôt les montrer de la douceur, et du coup de l'émotion. Et ça passe aussi en termes de composition photo par soit aller chercher du détail, soit au contraire le laisser tout petit dans son environnement pour le resituer. Et c'est ce qui m'intéresse, quoi.
Ouais, ça crée l'instant, quoi. Ouais. On a aussi une photo où on voit donc l'ours Cameron un peu derrière une végétation floue qui apparaît.
Ouais, c'est ce que je recherche. Ouais. Là, en fait... Pour ici, en termes de présentation, on a été un peu... Enfin, limité, c'est normal. Hein, on ne peut pas non plus présenter des milliers et des cents de photos. Mais j'ai des photos où l'animal est tout flou, volontairement, avec la végétation au premier plan qui est nette, pour traduire l'effet de fantôme. Parce qu'en fait, l'ours Carmode, les natifs l'appellent l'ours esprit. Et chez eux, ça a
une... Alors, forme. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que... ils considèrent que un membre de leur communauté qui meurt est réincarné en ours Kermode. Donc chaque ours Kermode est la réincarnation du membre.
D'un ancêtre.
Ouais, exactement. Et donc, je me suis dit, tiens, en faisant l'animal flou, enfin juste la silhouette, ça traduit cette idée. Voilà. Alors après, c'est pas suivant toutes les tribus, hein, mais certaines, ouais.
Alors, il y a, on peut voir dans tes photographies et les légendes qui les accompagnent, tant dans l'aspect graphique que dans le texte qui est en dessous, il y a beaucoup de poésie. La façon dont tu en parles traduit un peu cette sensibilité, l'émotion et la poésie que tu laisses sourdre dans chacune de tes photos. Mais il y a aussi une démarche scientifique. Est-ce que dans ton geste, il y a aussi une démarche de sensibilisation, de recherche scientifique, de dénombrement de population, de comportement?
De discours scientifique, je n'irai pas jusque-là parce que je n'ai pas la prétention d'être scientifique, même si j'ai fait quelques études dans le domaine. Mais par contre, de prise de conscience. Ça, c'est important, je pense, pour sensibiliser les gens. Donc, avoir des infos correctes déjà, parce qu'on peut raconter un peu ce qu'on veut. Hein. Mais non, l'idée, c'est présenter des infos réelles, sensibiliser en même temps. Et puis, en fait, c'est un mixte, hein, c'est différentes choses. Parce que moi, sur le terrain aussi, chaque fin de journée, je fais quelques prises de notes. Et ce qui me permet donc de retranscrire ça pour mes expos. Ouais.
Et tu as une collaboration scientifique où tu travailles pour toi et pour les personnes qui vont être sensibles à ton travail? Ou est-ce que tu as des collaborations?
C'est fonction des sujets. Quelquefois, ça arrive. Généralement, la grande majorité des cas, c'est je propose les reportages pour des parutions. Et quelquefois, ouais, pour des parcs nationaux. C'est-à-dire que des photos qui peuvent servir en termes pour leur communication. Des choses comme ça. Mais pas après, en termes de comportement. Pour le puma, par exemple, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Et il y a des organismes scientifiques qui m'interpellent pour avoir des photos avec des jeunes, avec la mère qui est avec des petits. Enfin.
Tu parlais tout à l'heure des vautours.
Oui, les vautours dans les Cévennes, les vautours moines, ils n'avaient pas connaissance de la présence de cette espèce à un endroit. Et puis quand j'ai ramené les photos que j'ai montrées aux gardes du parc, ils m'ont dit « Ah, mais on ne connaissait pas ». Donc voilà, c'est un intérêt pour eux aussi, quoi.
Ça marche dans les deux sens, mais tu es autonome dans ta recherche.
Autonome, autodidacte, parce que la photographie, je l'ai appris tout seul. Et après, si je peux aider, bah ouais, avec plaisir. La photo, c'est fait pour être partagée, donc que ce soit auprès des scientifiques ou auprès du grand public, ouais, c'est fait pour ça.
Et est-ce que pour revenir à l'ours Kermode, qui est un peu... Visiblement, on sent qu'il y a une affinité, en tout cas, entre cet animal et ton regard et la façon d'utiliser ton métier pour aller observer cet animal. Il y a une forme de symbolique. Cet animal qui est assez imposant, qui est, comme je disais tout à l'heure, assez représentatif d'une nature puissante et sauvage. Est-ce que l'ours blanc auquel je faisais allusion tout à l'heure, tu vois chez ton public une affinité particulière pour cet animal ou globalement le monde sauvage dans ton regard, dans ton expérience à toi, le monde sauvage du Grand Nord est un sujet symbolique sur les évolutions dont on parle beaucoup?
C'est un intérêt, ouais. C'est un intérêt pour les grands espaces de plus en plus, de la part des gens, hein, je parle, hein, qui sont soit intrigués, soit... Et donc, ils vont poser pas mal de questions vis-à-vis de cet ours, entre autres, parce que c'est vrai que, comme on le disait, la plupart du temps, les gens, ils arrivent sur l'expo, ils me disent « Oh, mais c'est des ours polaires !» Et donc, il faut être là pour expliquer, quoi. D'où l'intérêt des textes aussi, à côté. Et puis, la question était un peu longue, mais...
la nature sauvage en tant que symbole de...
C'est ce qui me représente moi, mais je pense que c'est ce qui est important. Il faut faire passer le message, quoi.
Alors, tu as aussi, tout à l'heure, tu nous expliques que tu travaillais aussi, tu avais eu l'occasion d'aller dans le Grand Sud.
Là, c'était en fait au Chili. tout au sud du Chili, dans un parc national qui s'appelle le Torres del Paine. Alors il y a pas mal de gens qui le connaissent parce que il y a beaucoup de rando par là-bas. Mais moi j'y vais pas pour la rando, même si j'aime bien ça. J'y suis allé pour le puma donc. Et c'est pareil, c'est comme un peu pour le Carmode, je me suis préparé pendant un an et demi. Et quand j'étais dans l'avion, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'es parti faire là-bas? Parce que, en fait, j'avais presque pas vu d'image. Il n'y a pas grand monde à avoir vu des photos, enfin, avoir réalisé des images de puma. Et donc, moi, j'étais parti là-bas pour 3 semaines. J'allais retrouver un guide local. Et puis, lui, son objectif, c'était quand même d'essayer de me montrer cet animal. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième, quatrième, cinquième jour, rien du tout. Et là, il commençait à se poser des questions aussi. Puis finalement, ça a fait. Puis on en a vu pas mal. Ouais.
Et donc, ça fait pas un peu peur de se dire qu'on va approcher le puma, quoi. C'est quand même un félin. Personnellement, je me sentirais pas rassuré. Comment ça se passe dans ces moments-là?
C'est vrai que c'est potentiellement dangereux. Mais moi, je me sens plus à l'aise avec les pumas et les ours que si on me lâche dans Paris, quoi. Non mais quand on voit le flux de voitures ou je ne sais quoi, ou en banlieue sans schématiser, hein. Non, moi je me sens vraiment à l'aise, surtout plus avec les prédateurs qu'avec les herbivores.
Ah,
ouais, j'ai plus de... Alors, est-ce que c'est une question d'affect?
Oui,
je sais pas. Les ours, je me sens vraiment à l'aise, les pumas, ça va, hein. Mais il y a des précautions à prendre, faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que le puma... Comment dire, il y a un moment où je me retrouve, enfin, je fais exprès de m'allonger dans la neige et je sais que ça va provoquer quelque chose chez le puma. C'est-à-dire que donc il s'approchait, il allait droit sur moi et en me mettant allongé, et ben lui il se met en position de chasseur. Mais il n'est pas en chasse, hein. C'est juste de la curiosité et du coup il s'approche et moi ça me permet d'avoir une attitude particulière, une attitude que j'avais en tête depuis un petit moment et je voulais photographier ça. Donc après je me redresse, lui il se redresse aussi, puis il s'approche encore un peu. Puis après, il est parti jouer dans la neige, tranquille.
Oula.
Et puis, il s'est approché. En fait, au moment de la prise de vue, je suis à 25 mètres. Puis, il s'approche à 12 mètres.
Et donc, à ce moment-là, prêt à déclencher pour saisir la photo, quoi.
Ben, en fait, on parlait de préparation de séjour en termes de logistique. Mais c'est aussi, du coup, comme on est dans la logistique, dans la préparation, on se crée ses propres images. On se dit, tiens, moi, j'aimerais bien obtenir ça ou ça comme image. Et quelquefois, le fait que tel ou tel sujet n'ait pas été photographié auparavant, eh bien on arrive vraiment avec des idées toutes fraîches. On n'est pas incité par
une technique déjà existante,
ou par des images qui ont déjà été faites tout simplement. Donc le fait d'arriver avec un regard frais, eh bien on est vraiment ouvert, quoi.
Bah oui, ça c'était une question que je me posais justement par rapport quand vous partiez comme ça pour un voyage, si en tête il y avait des idées précises de clichés et si ça c'était quelque chose qui si toutes ces idées aboutissaient ou si des fois c'était les gros flops ou pas.
Bah, il peut y avoir des flops parce que la nature on la maîtrise pas. En revanche, des idées d'images, ouais, j'en ai tout le temps. J'en ai encore plein là à venir pour des sujets plus ou moins long terme, mais il y en a tout le temps. Et puis en même temps, à côté de ça, il y a des opportunités. Quelquefois, on ne s'attend pas à ce que... la dernière fois, là, au mois de mai, j'étais au Chili, et j'ai eu un puma à 6 mètres. Donc il est venu en fait renifler le sac, puis après il est reparti. Mais ça, on peut se dire, tiens, j'aimerais bien l'avoir avec une telle lumière, ou sur une crête, ou avoir les petits en train de jouer, mais... On ne peut pas tout prévoir, donc il faut saisir l'instant, il faut toujours avoir l'appareil prêt, toujours avoir une deuxième batterie de rechange au cas où, la carte mémoire c'est bon, j'ai de la place encore, toujours. Et puis être concentré, enfin moi j'ai des, enfin je ne vais pas dire que j'ai des œillères, mais vraiment prêt, on se concentre à fond là-dessus.
C'est un état d'esprit global pour obtenir...
Quand je pars en forêt ce matin, là, c'est pareil, avant de venir sur l'expo, je suis allé en forêt et on est... bien focalisé, on est à l'écoute de tout, quoi.
Okay.
Eh bien, Julie,
je me demandais les prochains objectifs, les prochains clichés, c'est pour où?
Je sais pas trop.
Et l'animal?
Alors pour l'instant, il n'y a pas de projet bien défini. Parce que quelquefois, je pars pour moi, mais quelquefois, je pars aussi en tant qu'accompagnateur pour des groupes. Donc à mon propre compte, je ne sais pas encore. Et autrement, l'année prochaine, il y a des séjours prévus au Chili, en Himalaya pour la Panthère des Neiges, en tant qu'accompagnateur.
Accompagnateur de groupe
De groupe de gens qui souhaitent observer ou observer et photographier certaines D'accord. espèces. Et puis autrement, puisque moi j'habite pas très loin d'ici, dans l'Orbihan, des images locales, où on prend autant de plaisir. Enfin, moi je prends autant de plaisir à aller photographier un renard ou un blaireau qu'un puma quoi, ou un ours.
Tant qu'ils sont là.
Exactement.
Eh bien, en tout cas, un tout grand merci Jean-Marie Sévenot. On peut admirer votre travail au Festival Arrêt Nature de Paimpont encore tout ce week-end. Mm-hmm. Allez se pencher sur la... Alors moi j'ai été sensible à la façon avec laquelle tu tutoies ton sujet dans les commentaires que tu apposes à côté de la photo. Ça Merci. M'a évoqué une certaine intimité et un respect d'égal à égal. J'ai eu ce ressenti dans le texte et la façon dont tu l'écris.
Merci. Bah, le respect et l'humilité, pour moi, c'est indissociable de la photo nature. Quoi.
C'est une rencontre de deux individus.
Ouais, pas dérangé et pour en faire ressortir le meilleur. Quoi. C'est comme ça que je vois la chose.